Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges.
Bienvenue à ce second cours. Donc aujourd'hui, on va entrer un petit peu dans le vif du sujet on va mettre les interactions entre fermions et puis on va regarder des expériences qui datent d'il y a déjà un certain nombre d'années dans lesquelles l'isolement de mode fermionique a pour la première fois été observé dans ces systèmes. Ensuite, j'espère avoir le temps de vous parler un petit peu de magnétisme, mais on verra ce qu'on arrive à faire pendant une heure et demie. Alors, le séminaire d'aujourd'hui est donné par Jean-Philippe Brantu de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui va nous parler de comment on induit des interactions à longue portée entre fermions, et même à très longue portée, all to all, en mettant des fermions dans des cavités. Mais Jean-Philippe a aussi été l'auteur de travaux très remarquables sur le transport dans ces systèmes de fermions, dont Tillmann et Slinger a parlé un peu la dernière fois et sur lesquels je pense que je reviendrai au dernier cours. Bon, je vous rappelle les détails techniques, il y a une liste de diffusion, etc. Alors, comment est-ce qu'on met des interactions entre fermions? Alors, bien entendu, si on a des fermions dans un réseau, et qu'on considère seulement des interactions locales à très courte portée, il faut avoir plus qu'une espèce de fermion. Une autre possibilité, ça serait d'avoir une seule espèce de fermion et des interactions à plus longue portée. Mais je ne vais pas vraiment parler de ça dans le cours d'aujourd'hui, on en entendra parler dans le séminaire de Jean-Philippe. Donc, pour avoir plus d'une espèce de fermion, on a à notre disposition les différents états hyper fins d'un atome. Donc je vous rappelle que dans un atome, on a évidemment le moment cinétique électronique total, J, là-haut en haut à droite, qui se combine avec le moment cinétique nucléaire, I, dans un nouveau nombre quantique qu'on appelle traditionnellement F. Et donc un atome a différents niveaux d'énergie qui dépendent de F, et en particulier, bien sûr, un champ magnétique par effet Zeeman lève la dégénérescence de ces différents niveaux. Donc voilà le schéma des niveaux en fonction du champ magnétique pour le potassium 40, qui est un isotope fermionique du potassium, qui est très fréquemment utilisé dans ces expériences. L'autre atome étant très, très fréquemment utilisé étant le lithium 6. Donc vous voyez ici qu'on a un multiplet F égale 9,5, qui contient donc 10 états, et puis un multiplet F égale 7,5, puis quand on applique un champ magnétique, on a une levée de dégénérescence de tous ces états. Alors, dans une expérience d'atomes froids à deux composantes dans un réseau optique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir deux de ces états hyper fins, qui vont être nos deux états, qui, si vous voulez, jouent le rôle d'un spin effectif, entre lesquels il va y avoir des interactions locales. Voilà un exemple. J'ai tiré ce graphe de l'article de revue de Laetitia Carvel et Sanchez Palencia que j'avais cité la dernière fois. Donc voilà un exemple où on met les deux atomes dans les sous-états moins 9,5 et moins 7,5 de ce multiplet F égale 9,5. Alors il y a différentes manières dont on peut réaliser ça. Donc, préparer le système dans un tel état. Une des manières de faire, mais il y en a d'autres, c'est de charger les atomes dans un seul état hyper fin, par exemple M égale moins 9,5. Et puis une fois qu'on a tous les atomes dans le réseau, brancher le réseau, une fois qu'on a tous les atomes dans cet état-là, on peut appliquer un pulse radiofréquence qui va basculer une partie des atomes dans l'état moins 7,5. C'est une des manières de faire, il y en a d'autres. Et on a un contrôle sur le nombre d'atomes individuellement dans chacun de ces états. Alors ça, c'est une chose sur laquelle je voudrais insister un petit peu, parce que ça surprend quelquefois les physiciens de la matière condensée. Quand on regarde ce schéma de niveau, on a l'impression qu'on va se retrouver dans un système dans lequel l'état moins 9,5 et l'état moins 7,5 ne sont pas à la même énergie. Effectivement, vous voyez qu'il y a une différence d'énergie entre ces deux états qui est loin d'être négligeable, puisque l'axe ici, c'est des mégahertz. Alors qu'on l'a vu, les énergies de recul typiques dans un réseau, c'est la dizaine de kilohertz, d'accord ? Donc c'est une énergie qui est énorme par rapport à ça. Donc on pourrait avoir l'impression, si on fait de la matière condensée, qu'il y a en fait un énorme champ magnétique appliqué au système. Mais ça, c'est une impression incorrecte, parce que, en fait, ce qu'on fait dans ces systèmes, c'est qu'on contrôle séparément le nombre d'atomes dans l'état up, si vous voulez, l'état down. Donc on travaille à aimantation fixée. En conséquence, la différence d'énergie entre ces deux états n'est pas pertinente. Ce qui compte, c'est le fait qu'on ait N up égale N down, ou si on veut contrôler la différence de population, une différence de population N up moins N down, l'aimantation donnée. Donc ça, c'est une petite remarque pour ceux que ce schéma de niveau pourrait choquer. Alors, donc on a ce gaz à deux composantes dans un réseau. Ces deux composantes vont interagir entre elles. On va voir comment au transparent suivant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut contrôler les interactions entre ces deux types, entre ces deux composantes, en utilisant ce qu'on appelle les résonances de Feshbach. Donc si je considère la longueur de diffusion de ces deux espèces, de ces deux composantes l'une sur l'autre, dans une approximation où je remplace le potentiel d'interaction par juste une fonction delta, on va voir ça au cours suivant. Bonjour Jean-Philippe. On peut se placer dans une situation où cette longueur de diffusion varie énormément. Elle peut d'ailleurs être positive ou négative en fonction d'un champ magnétique appliqué. Alors ça, c'est un phénomène qu'on appelle la résonance de Feshbach. Je ne vais pas le décrire dans le cadre de ce cours. Jean Dalibar en a parlé dans ses cours de physique atomique. Essentiellement, l'idée, c'est que il y a un état moléculaire qui est un état qui n'est pas peuplé, mais quand l'état en question arrive proche de cet état moléculaire, il y a une divergence de la longueur de scattering. Et donc vous voyez ici, pour le potentium 40, l'évolution de la longueur de diffusion au voisinage d'une des résonances de Feshbach de ce système, qui vous voyez autour de, je ne sais pas, 224 Gauss, quelque chose comme ça, où vous voyez que la longueur de diffusion passe d'une valeur positive à une valeur négative et varie de manière très sensible en fonction du champ magnétique. Alors ça, c'est un autre levier qu'on peut utiliser pour régler les interactions dans ce type de système. Donc vous voyez déjà apparaître, entre le cours précédent et le cours d'aujourd'hui, les différents boutons qu'on peut tourner dans une expérience, enfin ça c'est un peu un langage de théoricien, qui permettent de contrôler les paramètres du problème. Il y a la profondeur du réseau, on a vu que le saut entre voisins dépendait de manière exponentielle de cette profondeur, et puis il y a la longueur de diffusion qu'on peut éventuellement faire changer avec une résonance de Feshbach, et on verra comment l'interaction de contact entre ces deux espèces dépend de ce paramètre. Alors, on peut faire ça, c'était le potassium 40, situation analogue pour le lithium 6. Donc ici, vous voyez de nouveau 2 multiplets, F égale 1,5, F égale 3,5. Vous voyez leur évolution par levée de dégénérescence des mannes en fonction du champ magnétique. Et souvent, on utilise deux de ces états du multiplet de basse énergie ici pour faire les expériences. J'ai tiré ce plot ici d'un article de Randy Hewlett sur la physique atomique du lithium 6, en gros, et qui donne aussi les longueurs de diffusion. Alors là, vous voyez qu'il y a plusieurs résonances de Feshbach dans le cas du lithium 6. Donc voilà, donc potassium 40, lithium 6, ce sont deux exemples qui sont utilisés dans la plupart des expériences de fermions à deux composantes. Il y a des atomes plus complexes qui sont utilisés, j'en parlerai peut-être à la fin de ce cours, je ne pense pas que j'aurai le temps, donc ça sera peut-être le cours suivant, comme l'ytterbium qui permet de réaliser des systèmes avec beaucoup plus d'états internes. Alors, donc on a, j'ai très brièvement et superficiellement décrit la nature des collisions dans le continu, et maintenant il va falloir traduire ça dans le réseau. Donc pour ça, on va revenir au cours précédent, exprimer les choses en termes de fonction de bloc ou de fonction de Vanier, si on veut réfléchir de manière localisée dans l'espace réel. Et je vais être obligé d'introduire un tout petit peu de seconde quantification, qui est un terme que je n'aime pas du tout, mais il est établi par l'histoire. Donc qu'est-ce que c'est la seconde quantification? Ça veut dire qu'on réfléchit à une base d'état du système à n corps, qui sont des déterminants de Slater antisymétrisés, qu'on paramétrise par les nombres d'occupations dans une base de fonctions d'onde qui diagonalise l'hamiltonien à un corps, l'hamiltonien sans interaction. Donc par exemple, on peut choisir les ondes de bloc, les états de bloc que j'avais introduits au premier cours, et on peut dire, on va peupler avec mes n fermions un certain nombre d'états k nu. Je peux évidemment, alors s'il y a deux composantes, je devrais dire k nu sigma, sigma et theta down. Et bien entendu, à cause du principe de Pauli, on peut mettre un seul fermion ou zéro fermion dans un état de nombre quantique donné. Donc les nombres d'occupation valent 0 ou 1. Disons que ici j'ai inclus le spin dans nu, hein, dans le même indice que l'indice de bande. Et cet état ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire le déterminant de Slater que je construis en peuplant ces n orbitales. Et c'est une notation extrêmement utile parce que je n'ai pas besoin de spécifier quel fermion est dans quelle boîte, hein, puisqu'ils sont indistinguables. La seule chose que j'ai besoin de spécifier, c'est quels sont les états occupés, quels sont les états vides. Alors, muni de cette notation, je peux définir un opérateur qui crée un fermion à la position X dans le système. Et donc ça me permet de définir des opérateurs de création et d'annihilation, qui sont des opérateurs qui changent l'état n k' nu', disons, sans changer en changeant seulement un nombre d'occupations, k nu. Donc c croix k nu sur n k' nu', c'est quelque chose qui ajoute un fermion dans l'état k' nu' égale k nu, si cette place était vide, sinon ça fait 0, et puis qui ne change rien ailleurs. Donc ça, c'est l'opérateur C croix K nu. Je passe très vite sur tout ça parce que je pars de l'hypothèse qu'en gros, vous êtes à peu près familier avec la seconde quantification en mécanique quantique. Donc vous voyez, l'opération qui consiste à le champ de fermion au point X, le champ de création d'un fermion au point X, peut être décomposé sur une base qui, ici, sont les états de bloc que j'ai introduit la dernière fois, psi croix k nu de x, donc psi étoile k nu de x. Donc ici, c'est exponentielle moins i kx, u k nu de x qu'on a vu la dernière fois. Alors ça, c'est un choix qui utilise une base dans l'espace réciproque. Je peux aussi décider de travailler dans l'espace des fonctions de Vanier, qu'on a introduites au premier cours, donc dans une vision localisée du problème, où n seraient les sites du réseau. Je vais de temps en temps dans ce cours utiliser n pour les sites du réseau et de temps en temps i, ça dépendra des jours et du contexte. Ici c'est n, et donc ça c'est la fonction de Vanier qu'on a introduite au premier cours, qui est centrée sur la position na, j'ai écrit ça à une dimension pour simplifier les choses, et c croix n nu, c'est l'opérateur qui crée un fermion, disons dans la bande nu et avec une certaine composante de spin, sur le site n. Alors, muni de cette notation, je peux évidemment réexprimer l'hamiltonien à un corps dans une notation dite second quantifiée. En réalité, ça veut dire sous la forme d'un opérateur qui agit dans l'espace de Fock, l'espace de Fock étant l'espace des états à n corps, mais qui sont, dont une base possible sont ces déterminants de Slater antisymétrisés. C'est ça que ça veut dire. Donc H0 dans cette base va s'écrire en termes de ces opérateurs de création et d'annihilation, va s'écrire de cette manière: somme sur canu de epsilon canu c croix canu c canu. Vous reconnaissez ici l'opérateur nombre de fermions dans l'état canu. J'aurais pu écrire ici n chapeau canu, et donc dans cette base on a diagonalisé H0, c'est la base des états de bloc. On a vu la dernière fois qu'on pouvait aussi tout réexprimer sous la forme d'un hamiltonien dit de liaison forte, représentation qui est particulièrement utile quand le réseau est profond. Et à ce moment-là, on se place dans l'espace réel, donc les n et m sont les sites du réseau, et les TNM nu sont les amplitudes de saut tunnel d'un site N à un site M dans l'état nu. En particulier, si on est dans un réseau suffisamment profond pour que seul le saut plus proche voisin soit pertinent et qu'on n'a qu'une seule bande, les choses s'écrivent de manière très simple. Dans l'espace direct, ça va être moins T somme sur tous les sites de C croix N plus 1 CN. Donc c'est le saut d'une particule de N à N plus 1 ou réciproquement, ça c'est le rôle de l'hermitique conjuguée. Ou bien dans l'espace réciproque, eh bien ça va être une bande en cosinus, moins de T somme sur K de cosinus KA ou à le pas du réseau C croix K CK. Vous passez d'une expression à l'autre simplement en faisant la transformée de Fourier du membre de droite ou du membre de gauche. Donc voilà des rappels de seconde quantification qui me sont nécessaires pour réécrire l'interaction dans cette base, dans cette notation seconde quantifiée. Alors, je vais donc considérer le cas où il est suffisant de décrire le système en termes d'un pseudo-potentiel local dans le continu. Alors, on va voir les limites de cette approximation dans quelques transparents. Mais supposons qu'elle s'applique ici, donc dans ce cas-là, l'interaction dans le continu va faire intervenir la densité de fermions au point R dans une des composantes hyperfines. Donc maintenant, je vais utiliser une notation où il y a un pseudo-spin qui quantifié selon Z va être up ou down. Et il faut que vous vous souveniez qu'il s'agit des deux états hyperfins que j'ai considérés dans mon système. Donc ici, ça c'est la densité de fermions au point R dans un des états hyperfins, et ici c'est la densité de fermions au point R dans l'autre état hyperfin, et on a une interaction de contact, densité-densité, qui est paramétrisée par une constante de couplage G, qui, théorie des collisions assez standard, est égale à 4 pi h bar carré, la longueur de diffusion dont on a parlé tout à l'heure, celle qui varie par exemple au voisinage d'une résonance de Feshbach divisée par la masse de l'atome. Alors le travail qu'il faut faire, c'est exprimer cette interaction dans la base des états de Fock que j'ai écrit tout à l'heure comme un opérateur qui agit sur ces états de Fock. Donc ça, c'est pas très compliqué. Il suffit de prendre l'expression qui est là, par exemple dans la base de Vanier, dans laquelle je vais travailler la plupart du temps, et puis de l'insérer dans cette expression et de développer. Donc ce que vous obtenez, c'est une grande matrice qui va dépendre qui est une matrice à 4 indices qui sont les indices des différentes bandes et des différents états de spin, et puis 4 indices qui sont les positions sur le réseau. Ici, j'ai utilisé une notation tridimensionnelle où les positions sur le réseau sont R1, R2, R3, R4. À une dimension, chacun de ces R serait un N1 fois A. D'accord ? Voilà, donc vous avez une grande matrice. Et cette grande matrice est obtenue simplement, puisque l'interaction est une fonction delta dans l'espace réel, est obtenue simplement quand je substitue cette expression ici comme une intégrale qui fait intervenir le recouvrement de 4 fonctions de Vanier pour chacune des 4 bandes nues, chacun des 4 états, centrées autour des 4 positions R1, R2, R3, R4. Alors, comme on a vu, ou au moins mentionné la dernière fois, au moins quand il n'y a pas de contraintes topologiques, mes fonctions de Vanier peuvent être construites de manière à ce qu'elles décroissent exponentiellement avec la distance. Et donc ça veut dire qu'à moins que toutes ces positions soient les mêmes, eh bien ces interactions vont devenir de plus en plus petites. En particulier, les interactions non locales vont être petites si mes fonctions de Vanier sont bien localisées. Ça ne va pas forcément être le cas si le réseau n'est pas assez profond. Mais quand le réseau est profond, les fonctions de Vanier deviennent très localisées. Et certainement, en tout cas, l'élément de matrice le plus important de cette matrice, ça va être celui où toutes les fonctions de Vanier sont centrées sur le même site, donc l'interaction locale. Alors, vous voyez que ça me dit que pour la bande nue, eh bien, ça me donne un élément de matrice, une constante de couplage, qui s'appelle traditionnellement U. C'est une référence au modèle de Hubbard, pas U comme Hubbard, hein. U parce que c'est la notation traditionnelle dans ce domaine pour désigner le modèle de Hubbard, qui va être donné par 4 pi h bar carré, la longueur de scattering divisée par la masse, fois simplement l'intégrale spatiale de la puissance 4 de la fonction de Vanier, sachant que la fonction de Vanier est normalisée, donc l'intégrale des R de W module carré est égale à 1. Bon, ici, c'est la puissance 4. Alors, comment est-ce qu'on peut... Donc ça, c'est quelque chose qui permet, en principe, de prédire quelle va être la valeur de l'interaction dans le réseau. A, c'est une notion de physique atomique qu'on peut mesurer dans des expériences ou même calculer par des méthodes de physique atomique. Et puis, ça, c'est quelque chose qu'on peut calculer si on connaît suffisamment bien le réseau. Donc, en principe, on a une prédiction analytique pour qu'est-ce que vaut U. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut mesurer expérimentalement. Je ne vais pas avoir vraiment le temps d'en parler en détail. Mais il y a différentes techniques pour faire ça. L'une de celles qui est le plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie de modulation, qui est quelque chose qui a été introduit en particulier dans un article de 2006 de Corina Collact, Thierry Giammarchi et co-auteurs, et qui consiste à introduire une perturbation dépendante du temps du réseau. En fait, on fait osciller l'amplitude du réseau d'une manière périodique dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui pompe de l'énergie dans le système. On mesure la double occupation du système et grâce à ces mesures, on peut en déduire quelle est l'interaction entre les deux espèces. Donc il y a un pic en fait dans le spectre d'absorption d'énergie qui correspond à l'énergie U et on peut vérifier ou quantifier de manière plus précise et comparer à la prédiction théorique la valeur de U. Donc on a aussi un contrôle expérimental sur qu'est-ce que vaut U dans le système, au moins dans une certaine mesure. Alors vous voyez que si je me place dans la situation la plus simple, c'est-à-dire la situation où le réseau est suffisamment profond pour que les différentes bandes soient bien séparées. On a vu dans le cours précédent comment le gap entre les différentes bandes, au moins à une dimension, dépendait de la profondeur du réseau. Donc vous vous souvenez que non seulement la largeur de bande décroît exponentiellement avec la profondeur du réseau, mais aussi la séparation entre les bandes devient de plus en plus grande quand on augmente la profondeur du réseau. Donc si on se place dans un réseau suffisamment profond pour pouvoir considérer que la bande qui nous intéresse est bien séparée des autres, si par exemple on considère les fermions dans la bande du bas, c'est souvent ce qu'on fait, et que seule cette bande du bas est peuplée, donc ça dépend de la densité de fermions qu'on a dans le système, eh bien on va se retrouver dans une situation où la seule bande qu'on a à considérer dans le problème, c'est cette bande peuplée, et la seule interaction qu'on a à considérer, eh bien c'est cet élément de matrice pour la bande considérée, et on va pouvoir négliger toutes les interactions non locales à cause du fait qu'elles décroissent très vite avec la distance. Et donc dans ce cas-là, on réalise la forme la plus simple de ce qu'on appelle le modèle de Hubbard, dont je pense que vous avez tous et toutes entendu parler. Si le modèle de Hubbard vous intéresse plus en détail, vous pouvez regarder les vidéos de mon cours d'il y a 3-4 ans, dans lesquelles j'avais consacré tout un cours à ce modèle. Et donc vous voyez ce modèle, c'est un modèle dans lequel on a juste un saut plus proche voisin entre sites du réseau, donc là les sites s'appellent IJ, ça c'est pour être sûr que vous suivez, de temps en temps ils s'appellent NM, de temps en temps ils s'appellent IJ, de temps en temps ils s'appellent RR', ça dépend un peu du contexte. Ça c'est la notation la plus fréquente en physique de la matière condensée. Donc là, on a juste un saut, une amplitude tunnel plus proche voisin, ici on a l'interaction de Hubbard entre mes deux états hyper fins up et down, et puis on a... dans l'ensemble grand canonique, disons un potentiel chimique qui nous permet de régler la densité. Alors en fait, il manque un élément important dans ce transparent sur lequel je vais revenir dans un instant, c'est que au moins dans les manips d'il y a quelques années, il y a toujours un potentiel de piégeage, hein, et dans les manips d'il y a quelques années, ce potentiel de piégeage était souvent parabolique. Maintenant, on sait faire mieux que ça. Et il joue un rôle important, vous allez le voir dans la suite, il n'est pas écrit dans ce slide. Voilà, alors évidemment, on peut et on doit, en fait, si on s'intéresse à la physique du modèle de Hubbard, considérer d'autres termes qui peuvent être intéressants pour la physique. Par exemple, un terme très intéressant pour la physique dans le contexte de la physique de la matière condensée, et en particulier des supraconducteurs à haute température, c'est le saut. Ici, selon les diagonales, donc ce second voisin, T'. Ce saut, second voisin, il n'est pas toujours si facile à réaliser dans les expériences d'atomes froids, puisqu'on a vu la dernière fois, si on met les lasers de cette manière, comme on l'a vu au premier cours, eh bien on a un potentiel séparable. Ce qui veut dire que les fonctions de Vanier sont séparables, W de XY, c'est W de X fois W de Y, et au moins dans ce cas idéal, il n'y a pas de saut second voisin, puisque le terme diagonal s'annule avec une fonction de Vanier séparable. Donc une des questions assez intéressantes, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire une expérience où on peut contrôler T' de manière contrôlable. Parce qu'en fait, on sait que ce T' joue un rôle important, j'en parlerai, je ne sais pas quand, au cours 4 peut-être, la compétition entre différentes phases, différents états fondamentaux du modèle Hubbard bidimensionnel, en particulier les ondes de densité de charge et la supraconductivité. Alors, donc ça c'est le cas, disons, idéalisé, et on entre vraiment dans le vif du sujet, dans la mesure où une bonne partie de la physique des atomes fermioniques dans les réseaux optiques a pour but de réaliser une simulation quantique de cet Hamiltonien, qui est un Hamiltonien qui joue un rôle conceptuel, au moins absolument considérable, dans le domaine du problème à n corps quantique. Cet Hamiltonien, du point de vue conceptuel, c'est un petit peu comme le modèle d'Ising en physique statistique. Dans le contexte des vrais matériaux, cet Hamiltonien n'est presque jamais réaliste. Il y a quelques matériaux qui sont plus ou moins bien décrits par un système à une seule bande avec une interaction locale. Les cuprates supraconducteurs, au moins qualitativement, en font sans doute partie. C'est une question encore un peu controversée, mais pour moi, il n'y a pas de doute que cet Hamiltonien de Hubbard, j'y reviendrai au cours prochain, a au moins les caractéristiques qualitatives des cuprates supraconducteurs. Mais si je regarde l'ensemble des matériaux à forte corrélation électronique, c'est une exception, ce n'est pas la règle. La plupart de ces matériaux impliquent d'autres bandes, une structure de tensor d'interaction plus complexe, avec plusieurs orbitales par site, etc. etc. Mais cet Hamiltonien de Hubbard, il nous intéresse, et on peut même dire qu'il nous fascine, parce qu'il a une très riche physique, et c'est le modèle jouet, si on veut dire, le plus simple, qui contient néanmoins un très grand nombre de phases intéressantes pour la physique. Par ailleurs, malgré sa simplicité dans sa formulation, il constitue un défi considérable pour les simulations numériques, par exemple, mais aussi la compréhension analytique du problème dans les régimes de couplage fort. Donc c'est un petit peu comme le modèle d'Ising en magnétisme. Le modèle d'Ising en magnétisme, il est très rare qu'il soit un modèle réaliste pour un matériau magnétique donné, mais c'est le modèle le plus simple qui capture, enfin qui a la physique qui nous intéresse. Alors, il ne faudrait quand même pas penser que même dans le contexte des atomes froids, on est toujours dans le régime où ce modèle d'Hubbard dans sa version la plus simple s'applique, et ça c'est quelque chose qu'on avait regardé, mais il y a aussi d'autres auteurs qui l'ont regardé avec Félix Werner il y a déjà une vingtaine d'années, où on avait regardé les conditions dans lesquelles l'approximation du modèle de Hubbard à une bande s'applique. Alors vous voyez ici, c'est un graphe qui est tiré de notre article, exactement 20 ans, dans lesquels on a en axe des Y dans une échelle logarithmique la longueur de diffusion normalisée par la maille du réseau, et puis en axe des X, on a la profondeur du potentiel périodique normalisée par l'énergie de recul qu'on avait introduite la dernière fois, cette fois en échelle linéaire. Et puis ici, dans la zone blanche, dont je vais parler un petit peu, c'est la zone où effectivement les conditions pour réaliser un modèle de Hubbard à une bande sont effectivement bien réalisées. Donc, quelles sont ces conditions? Il faut que les bandes soient bien séparées entre elles. Donc, il y a un critère qui est que l'énergie d'interaction U soit plus petite que la distance entre bandes. Si l'énergie d'interaction U est plus grande que la distance entre bandes, il va falloir considérer l'effet des autres bandes. Bon, évidemment, après, il y a aussi une question de densité. Hein. Il faut qu'on peuple seulement la bande du bas. Et donc ça, ça définit une profondeur du réseau limite. Si on va à des réseaux trop faibles, une profondeur trop faible, évidemment, on va commencer à être sensible aux autres bandes. Donc ici, il y a une limite qui n'est pas très contraignante ici, puisque vous voyez que dès qu'on est à une ou deux énergies de recul, tout va bien. Mais il y a aussi d'autres contraintes. Il peut y avoir d'autres éléments de matrice qui deviennent importants. Ça, c'est la ligne rouge ici. On va en voir un dans le transparent suivant, qui est particulièrement intriguant, qui peut apparaître quand on franchit la ligne rouge. Et puis, il faut aussi que l'approximation du pseudo-potentiel soit correcte. Et donc, pour que cette approximation du pseudo-potentiel local, A fois delta de R, soit correcte, il faut que la longueur de diffusion soit en gros plus petite que l'extension de la fonction de Vanier dans mon puits. Sinon, évidemment, si ma fonction de Vanier a une extension plus faible que ça, eh bien, l'approximation de la longueur de diffusion ne va pas forcément être juste. Donc ça définit une autre borne qui est en fait très proche de celle-là. Et donc dans cette zone blanche, on peut aussi tracer les iso-courbes de U sur T, U étant l'interaction de U bar des T, l'amplitude tunnel. Et vous voyez qu'effectivement, dans cette zone blanche, on a un grand contrôle sur la valeur de U sur T, qui est la constante de couplage caractéristique du modèle, en variant soit la longueur de diffusion, par exemple résonance de Feshbach, soit V0, la profondeur du réseau. Donc on peut varier U sur T sur des échelles considérables, d'où la contrôlabilité de ces systèmes. Alors quand on franchit cette ligne rouge, il y a des nouveaux termes qui apparaissent. On ne va pas en parler dans le reste du cours, mais je les mentionne quand même pour mémoire. En particulier, il y en a un qui est intéressant, qui nous a permis de tracer cette ligne rouge dans ce graphe. C'est ce terme ici, qui est un saut entre voisins, mais assisté par la densité. Donc vous voyez que c'est un opérateur à deux corps, qui fait intervenir une densité au point R avec de l'espèce down, disons, et puis un saut de l'espèce up entre R et R', plus proche voisin. Et ça, c'est un terme qui est souvent négligé, mais qui récemment, dans certaines simulations numériques, par Steve White en particulier, a été considéré dans le passage entre le modèle TJ et le modèle de Hubbard. Il se trouve que ce terme est aussi assez favorable pour la supra, si je comprends bien ces articles, et donc on peut le réaliser dans les systèmes d'atomes froids. Je pense qu'il est assez juste de dire que jusqu'à maintenant, la plupart des expériences d'atomes froids se sont concentrées sur essayer de réaliser une simulation quantique du modèle de Hubbard dans sa version la plus pure, mais dans les années qui viennent, on va probablement voir un intérêt plus grand pour les effets à plusieurs bandes ou d'autres types d'interactions qu'on peut introduire et on peut l'espérer contrôler dans ces systèmes. Voilà, donc je vais pas revenir sur ça dans le reste du cours, mais il faut que vous ayez à l'esprit que c'est une direction possible, intéressante dans le domaine. En particulier, il y a un couplage qui joue un rôle extrêmement important en physique de la matière condensée quand on a plus qu'une orbitale par site, qui est le couplage de Hund, qui favorise les particules de spin parallèle par rapport aux particules de spin antiparallèle. Et ce couplage de Hund, ça serait intéressant d'arriver à le réaliser dans ces systèmes d'atomes froids. Bon, donc on a établi, les acteurs de la pièce. Et maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans ces systèmes comme simulateur quantique de ce modèle de Hubbard. Donc, quelques mots sur le modèle de Hubbard pour situer un petit peu les questions qu'on peut vouloir se poser. Encore une fois, je ne vais pas faire un cours qui va passer en revue tout ce qu'on sait sur ce modèle, mais périodiquement, au cours de ces différents cours, je vais introduire ce qui est nécessaire et vous dire comment ça a été établi pour ce qui est pertinent dans les recherches actuelles sur les fermions froids dans les réseaux. Donc, on a déjà vu l'Hamiltonien, quelques notions très élémentaires. Quelle est la taille de l'espace de Hilbert de cet Hamiltonien ? Bon, donc en chaque site, on peut avoir un fermion, pas de fermion, un fermion dans l'espèce up, un fermion dans l'espèce down, ou un site doublement occupé. Donc clairement, l'espace de Hilbert a pour dimension 4 puissance n. Et donc vous voyez ici évidemment apparaître ce qui définit en gros la complexité du problème à n corps quantique, qui est que l'espace de Hilbert croît à une taille qui croît exponentiellement avec la taille du système, exponentielle de n log 4. D'accord, ça croît très vite. De sorte que, juste pour mémoire, si vous voulez trouver l'état fondamental de cet Hamiltonien en faisant une diagonalisation exacte du système, eh bien, le nombre de sites que vous pouvez... Je parle juste de l'état fondamental, en utilisant un algorithme de type Langchose, par exemple. Eh bien, le nombre de sites que vous pouvez traiter actuellement, c'est de l'ordre de 16. 16 sites à peu près. Si vous traitiez le modèle de Heisenberg, qui est la limite très localisée de ce système, comme on va le voir dans quelques instants, où il n'y a plus que deux états par site qui sont pertinents, donc l'espace d'Hilbert compte un peu moins vite, comme 2 puissance n, eh bien la plus grande diagonalisation exacte, pas diagonalisation complète, juste recherche de l'état fondamental qui a été réalisée à ce jour, c'est n égale 50. Donc 50 sites. On est très loin de 10 puissance 21 ou 23. 50 sites. Vous pouvez même vous poser la question suivante, ce qui est quand même assez évocateur. Imaginons que je ne cherche même pas à calculer la fonction de nombre de l'état fondamental, mais je cherche simplement, quelqu'un me la donne, et je veux la stocker en mémoire de mon ordinateur. Et pour ça, j'achète tous les disques durs disponibles dans le monde aujourd'hui. Donc, je suis très riche, j'achète tous les disques durs, et je cherche à stocker ma fonction de nombre. Vous pouvez le faire pour combien de sites ? Ben, la réponse à cette question, c'est qu'en mobilisant tout l'espace de stockage de disques disponible aujourd'hui sur la planète, vous pouvez stocker la fonction d'onde de 80 spins. Voilà. Donc ça vous donne une idée de la complexité du problème. Et quand je dis qu'on peut diagonaliser 50 spins, 1,5, par exemple pour le modèle de Heisenberg, c'est quand même en utilisant pas mal de raffinements de l'algorithme de Langchose qui vont utiliser toutes les symétries du problème, une gestion de la mémoire astucieuse, etc., etc. Et ce n'est pas quelque chose qui va changer demain avec la puissance des ordinateurs, puisque si vous utilisez la loi de Moore, on va pouvoir probablement faire 51 sites dans 2 ans. Donc il va falloir attendre assez longtemps pour faire ne serait-ce que 1000 sites. Donc ça, c'est un message que vous avez tous probablement déjà entendu, mais qui est important de rappeler, qui est que le progrès sur le problème quantique à N-core, c'est pas quelque chose qui se fait en attendant tranquillement dans son bureau que la puissance des ordinateurs évolue. C'est quelque chose qui se fait en inventant des nouveaux algorithmes plus intelligents, et donc ça sera l'objet du cours 3 ou du cours 4, selon la rapidité avec laquelle je parle, de décrire un petit peu ces différents algorithmes. Donc des algorithmes plus intelligents, qui permettent soit de compresser la fonction d'onde, soit d'aborder le problème par des techniques d'échantillonnage intelligentes, mais ce n'est pas en augmentant la puissance des ordinateurs. Enfin, bien que ça serve aussi. Voilà. Bon, donc le modèle de Hubbard, avec son espace de Hilbert exponentiellement grand, quel est l'espace des paramètres physiques où on veut comprendre les choses ? Ben, c'est un problème qui a très peu de paramètres. Donc il y a une constante de couplage qui est U sur l'amplitude de saut, dont on a déjà parlé. Il y a évidemment un paramètre important qui est la température, donc, qui va revenir très souvent dans ce cours. Et on va en particulier voir quels sont un petit peu le state of the art, l'état de l'art pour le refroidissement. Et puis il y a un autre paramètre très important qui est la densité moyenne d'électrons dans mon réseau, qui peut varier entre 0, pas d'électrons du tout, 1 électron par site, qui est ce qu'on appelle une bande demi-remplie, hein, puisque du point de vue du remplissage d'une bande d'énergie, je peux mettre jusqu'à 2 électrons par site, donc 1 électron par site, c'est la bande demi-remplie, ou bien un réseau complètement plein, n égale 2. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous donner une description assez qualitative du cas qui est un cas particulièrement intéressant, mais aussi relativement plus simple du point de vue en particulier computationnel, qui est le cas demi-rempli. Donc le cas où, en moyenne, j'ai parlé d'électrons, ça c'est de la déformation professionnelle, où j'ai en moyenne un atome par site dans mon système. Alors ça ne veut pas dire que tous les sites ont exactement un atome. Il peut y avoir des sites vides et des sites doublement occupés. Et ça, la fraction de sites vides doublement occupés va dépendre de l'interaction et de la température. Mais en moyenne, n vaut 1. Qu'est-ce qu'on sait sur le diagramme de phase du système avec n égale 1? Alors, en fait, on sait tout sur le diagramme de phase de système, et je vais le décrire à 3 dimensions, donc pour un réseau cubique. Je pense que pas mal d'entre vous savent déjà ça, mais je vais quand même vous le montrer. Alors ici, ce graphe, est, disons, semi-quantitatif à ce stade. Je vous montrerai une vraie détermination quantitative de ces différentes lignes. Ce graphe, il représente ici sur l'axe des X la température normalisée dans la demi-largeur de bande du système. Donc, si je suis sur un réseau cubique, vous voyez que l'hamiltonien de Sault, c'est 2T somme des cosinus. D'accord ? Et donc, la connectivité du réseau, c'est-à-dire le nombre de voisins de chaque site étant 6, la largeur de bande totale du système, c'est 6 fois 2T, donc 12T. Okay ? Donc la demi-largeur de bande, c'est 6T. Et ici, j'ai choisi de normaliser ce graphe en unité de la demi-largeur de bande. Donc ici, on a la température normalisée par 6T. En fait, c'est une normalisation qui est obsolète. Maintenant, la plupart des gens expriment la température et l'énergie d'interaction directement dans l'unité du hopping. On le fera souvent dans la suite. Et puis ici, U sur 6T. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que ce modèle, et donc il n'y a pas d'autre saut, on est sur un réseau cubique, hein, parfaitement bipartite. Alors, ce modèle, il a une transition de phase et une seule transition de phase. Entre une phase haute température, qui est toute cette région ici, où le système n'a pas d'ordre à longue portée, et une phase basse température, où le système a un ordre en dessous de cette ligne rouge, qui est la température de Néel, antiferromagnétique, en fonction de U sur 6T, où le système a un ordre antiferromagnétique. Si vous voulez vous représenter intuitivement un portrait de la fonction d'onde, ou au moins d'une composante de la fonction d'onde, vous pouvez vous la représenter comme ça, hein, où on a les spin-up sur le sous-réseau A, et puis les spin-down sur le sous-réseau B, avec une alternation parfaite, up-down, 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 dans les deux directions. Alors évidemment, ça c'est une vision très naïve de l'état de Néel, enfin de l'état fondamental, pardon, du vrai modèle, puisque cet état qu'on appelle l'état de Néel, où on a dans la base des SZ exactement cette configuration, n'est pas un état propre de mon Hamiltonien. L'Hamiltonien, on va le voir dans la suite, il est une superposition de beaucoup d'états de ce type, mais disons c'est une bonne caricature de l'ordre à longue portée qui existe dans le système. C'est-à-dire que si je calcule une fonction de corrélation spin-spin dans cet état, elle a effectivement cette structure spatiale. C'est-à-dire que l'invariance par translation est brisée, elle est maintenant plus grande, elle est deux fois la maille du réseau, etc. Et l'invariance par rotation de spin est brisée aussi. Donc c'est l'ordre antiferromagnétique. En dessous d'une certaine température de Néel, ici, la ligne rouge n'est pas quantitativement précise. Je l'ai tracé dans une approximation qu'on verra dans la suite, qui est l'approximation de champ moyen dynamique, qui surestime un petit peu cette transition, cette température de transition. Je vous montrerai un petit peu plus tard l'état de l'art numérique de la détermination de cette température de Néel. Bon, donc une seule transition de phase, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au-delà des transitions de phase, il y a des crossovers ou des changements de régime importants dans ce diagramme de phase qui ne sont pas si facilement caractérisables par un paramètre d'ordre ou une brisure de symétrie, enfin, qui ne correspondent pas à une brisure de symétrie. Donc, quelles sont-elles? Alors, imaginez que vous partiez du régime de très haute température ici. Donc, qu'est-ce que vous avez à très haute température? Vous avez une espèce de soupe incohérente, donc un système essentiellement classique, disons qu'il est une superposition de ces différents états. Et comme on est à très très haute température, on peut facilement accéder aux états vides, aux états doublement occupés, même s'il y a une interaction répulsive entre particules. Ah oui, je parle du modèle Hubbard répulsif, ici j'aurais dû dire ça. U est positif. Et puis quand vous baissez la température à couplage faible, quand vous baissez la température, cet état va devenir un état qui atteint la dégénérescence quantique. C'est un état de Fermi, de fermion en interaction. Donc on va obtenir un liquide, ce qu'on appelle un liquide de Fermi. Et il y a un moment où on va atteindre un régime où effectivement la dégénérescence quantique est atteinte. Les excitations de ce liquide sont des quasi-particules fermioniques. Et il y a une certaine échelle de température que j'ai essayé de dessiner ici qui caractérise ce crossover. Donc ici, on a une sorte de soupe incohérente, et ici, on a un liquide de Fermi. C'est un état liquide, ça veut dire que les particules peuvent se déplacer facilement, ce qui implique le fait qu'il doit y avoir pas mal d'excitations dans pas mal de composantes de la fonction d'onde qui ont des trous et des doubles occupations. Donc ici, j'ai essayé de représenter une espèce de portrait robot d'une composante de la fonction d'onde. Donc vous voyez qu'une composante de la fonction d'onde va avoir pas mal de sites simplement occupés, bien sûr, mais aussi beaucoup, une fraction non négligeable de sites avec des doubles occupations et des trous. D'accord ? Alors maintenant, que se passe-t-il si vous partez de cet état liquide et que vous augmentez la constante de couplage ? Ce qui va se passer, c'est que, évidemment, l'interaction répulsive U, elle défavorise les doubles occupations, et par symétrie, elle défavorise aussi les trous. Et donc, on va se retrouver dans un système où, en gros, presque tous les sites sont effectivement occupés par un seul fermion, mais ce fermion peut être dans l'état up et l'état down pratiquement de manière aléatoire. En effet, on n'a pas encore atteint la température plus basse ici, où ces spins veulent s'ordonner, up, down, up, down, up, down. Donc, localement, ils peuvent être up ou down et fluctuer. Mais en revanche, la charge, alors, je ne devrais pas dire la charge, je devrais dire la densité dans ce contexte, ne fluctue que très peu. Donc, il y a une certaine échelle d'énergie, quelque chose comme ça, qui va croître avec U, qui va être asymptotiquement d'ordre U à U très grand, en dessous de laquelle le système ne va plus avoir de fluctuations de densité, mais va continuer à avoir des fluctuations de spin locales importantes. Donc c'est un régime, si vous voulez, où il y a un moment local, pour parler dans les termes du magnétisme, avec un spin 1,5 qui fluctue sur chaque site, mais pas de fluctuations de densité, et en particulier très peu de double occupation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un état, donc c'est un état paramagnétique, sans ordre magnétique, à longue portée, mais c'est un état essentiellement incompressible, hormis les excitations thermiques. C'est ce qu'on appelle un état isolant de Mott. Alors, pourquoi isolant ? Parce que les fluctuations de densité sont très faibles, donc le système est essentiellement incompressible. Les particules ne peuvent pas bouger, elles sont en gros bloquées par l'interaction répulsive. Et pourquoi de Mott ? Bien parce que la plupart des isolants auxquels on est habitué quand on ne réfléchit pas aux interactions sont des isolants dans lesquels on a une bande pleine. Donc si je réfléchis à mon modèle, à ma bande d'énergie en cosinus, ça c'est K, ça serait disons les bords de la zone de Brillouin. Une des manières de faire un isolant, c'est de réaliser un isolant de bande, de remplir complètement cette bande d'énergie jusqu'en haut. Donc là, tous les états sont remplis. Ça c'est l'isolant de bande. Mais évidemment, il correspond à deux particules par site. Ici, on a une particule par site, donc ça veut dire que, du point de vue du système sans interaction, le niveau de Fermi est exactement au milieu de la bande, c'est-à-dire dans un système 1D à moins pi sur 2A, pi sur 2A. Tous ces états sont remplis. Là, je parle du système sans interaction, tous ces états sont vides. Du point de vue du système sans interaction, il s'agit d'un liquide ou d'un métal, puisque je peux avoir des excitations particules-trous de manière simple, sans gap d'énergie. Mais quand on met les interactions, et bien simplement parce que les particules ne peuvent pas bouger à cause de l'interaction répulsive, on peut transformer ce système liquide ou métallique en un système isolant, et c'est ça l'isolant de Mott. C'est un isolant qui est induit par les interactions. En fait, c'est l'isolant le plus simple auquel on peut penser. Hein. C'est le fait qu'on ne peut simplement pas bouger dans un wagon de métro quand toutes les places sont prises. Tout simplement. C'est en fait beaucoup plus simple à expliquer que l'isolant de bande, pour lequel il faut connaître beaucoup plus de mécanique quantique. Voilà. Donc, vous voyez que même dans ce cas très relativement simple, où on a en moyenne une particule par site, ce modèle, il a non seulement une transition de phase intéressante, mais il a aussi des crossovers intéressants. Donc vous voyez qu'il y a au final six régimes distincts. Il y a un régime de soupe incohérente ici, quasi classique, où le système fluctue violemment entre ces quatre états possibles par site. Il y a un système liquide ou métallique ici, avec beaucoup de double occupation et de trous. Il y a un isolant de Mott paramagnétique. Et puis, il y a à un certain moment, ces spins, évidemment, veulent s'ordonner, et c'est la ligne de Néel rouge. Et en fait, au sein de cette phase de Néel, il y a un crossover, je vais y venir à la fin de ce cours ou au début du cours suivant, entre, il n'y a pas de transition de phase au sein de cette phase, mais il y a deux régimes qualitativement différents. Un régime où le magnétisme peut être compris comme un phénomène de couplage fort lié au couplage de Heisenberg induit, et puis un régime ici où on peut comprendre le magnétisme dans une approche de couplage faible de champ moyen, ce qu'on appelle l'antiforme magnétisme de Slater. Donc vous voyez que ce modèle, bien que très simple, déjà dans le cas demi-rempli, il a toute une série de crossovers importants. Et ce qu'on va voir dans quelques transparents, c'est les premières expériences qui, il y a une quinzaine d'années, ont révélé non pas cette transition de phase, ça il a fallu attendre beaucoup plus longtemps, mais le crossover ici entre le régime liquide et le régime de Mott paramagnétique incompressible. C'est ce qu'on va voir dans quelques transparents. Alors, en attendant de faire ça, je veux quand même souligner le fait suivant, c'est que dans le cas du système demi-rempli, il y a en fait une symétrie qui est intéressante entre le modèle répulsif avec U positif et le modèle attractif avec U négatif. Je vais passer sur ça assez vite, je vais juste vous décrire le principe général. Si vous voulez en savoir plus sur ces symétries du modèle de Hubbard, vous pouvez regarder les vidéos de mon cours d'il y a 3-4 ans. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de symétrie? Alors, si je me place sur un réseau bipartite, comme le réseau cubique, et que je fixe la densité moyenne par site comme étant 1, donc dans le cas demi-rempli, en fait, on peut montrer qu'il y a une parfaite symétrie entre le diagramme de phase du modèle répulsif et le diagramme de phase du modèle attractif, qui est illustré sur cette vue d'artiste ici. Alors, à quoi vous vous attendez dans le cas du système attractif? Donc, je n'ai pas encore parlé jusqu'à maintenant. Donc ici, le couplage faible est ici, le couplage fort est là, moins l'infini plus l'infini. Donc évidemment, quand U est attractif, vous vous attendez à ce que dans le régime de couplage faible, il y a une instabilité suprafluide. Si les particules étaient chargées, on dirait supraconductrices, de type BCS. Donc ici, vous voyez que vous attendez à avoir une température de transition BCS qui va dépendre exponentiellement de 1 sur U, comme tous les phénomènes de type BCS, donc très petite à petit U. Et il se trouve que cette transition BCS, en raison d'une symétrie que je vais expliquer dans une seconde, est en parfait miroir de la transition antiferromagnétique de Slater en couplage faible. Et puis, si vous augmentez l'interaction attractive en valeur absolue, ce qui va se passer, c'est qu'à haute température, vous vous mettez à former des paires, puisqu'il y a une interaction attractive très forte, et cette fois, ce sont les états doublement occupés qui sont favorisés. Vous mettez à former des paires, qui sont des paires de bosons, deux particules sur le même site qui se lient entre elles. Et ça va se passer à une énergie, à une température qui est d'ordre U. Donc ici, quelque part, il va y avoir un crossover entre la fameuse soupe incohérente qui est là et puis la formation de paires. Ces paires sont des paires préformées qui n'ont pas encore condensé. Et puis à une température beaucoup plus basse, dont on va voir qu'elle varie comme 1 sur U, comme T carré sur U, où T est l'amplitude de saut, ces paires vont condenser dans un état qui va être essentiellement un état de condensation de Bose de boson. Et donc ça, c'est en parfait miroir avec le comportement de la température de Néel à grand U dans ce système. Donc vous voyez qu'il y a dans le système attractif un crossover, une phase superfluide qui correspond à la phase antiferromagnétique, un crossover entre le régime BCS et le régime de condensation de Bose, et puis au sein de cette phase ordonnée, et puis dans la phase désordonnée, un crossover entre un régime de type liquide et un régime bizarre de système de fermions, mais qui contient en fait des bosons essentiellement, qui sont ce régime de paires préformées, donc une sorte de liquide de Bose. Et ce crossover ici, il est en parfait miroir du crossover entre le régime liquide et le régime de l'isolant de mode paramagnétique. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y ait cette symétrie miroir? Donc c'est assez simple. En fait, si vous êtes sur un réseau bipartite, vous pouvez facilement voir que vous pouvez obtenir une symétrie exacte de l'hamiltonien pour une seule des espèces de spin, remplacer les particules, la création d'une particule pour cette espèce de spin par la création d'un trou. Donc, mathématiquement, ça veut dire que vous ne faites rien sur les opérateurs de spin-up, mais pour les opérateurs de spin-down, vous changez C croix en C, ou que j'ai appelé ici D pour ne pas les mélanger. Donc, la création d'une particule devient la création d'un trou, et vous faites ça avec une phase qui alterne selon que vous êtes sur le sous-réseau A ou sur le sous-réseau B. C'est le sens de ce moins 1 puissance I qui vaut 1 sur le sous-réseau A et moins 1 sur le sous-réseau B. C'est pour ça que cette symétrie n'existe que sur les réseaux bipartites. Et vous pouvez facilement établir la correspondance entre les différents types de termes du hamiltonien sous cette transformation. Par exemple, vous pouvez voir que la densité ou l'écart à 1 de la densité par site, de l'opérateur densité sur un site, se transforme dans le spin selon la direction Z dans cette symétrie. Vous pouvez voir aussi que le terme de potentiel chimique, décalé de U sur 2, mu moins U sur 2, se transforme en un champ magnétique uniforme dans cette symétrie. Et vous pouvez voir, et c'est encore plus intéressant, que le paramètre d'ordre antiferromagnétique, si je le regarde cette fois, non pas pour la direction Z, mais pour la direction X ou Y, ici pour la combinaison linéaire plus de X et Y, se transforme dans le paramètre d'ordre supraconducteur singulier, donc C croix I up, C croix I down, sur un site donné. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et évidemment, l'interaction U se transforme en moins U. Donc, vous voyez qu'on transforme l'hamiltonien U positif en l'hamiltonien U négatif, et chacune des phases de l'hamiltonien U positif a son miroir exact dans l'hamiltonien U négatif. Donc, voilà un petit tableau des différentes phases. L'isolant de mode paramagnétique, c'est-à-dire celui où, dans le langage U positif, j'ai gelé les fluctuations de densité, et sur chaque site, j'ai en gros un up ou un down. Dans le système à U négatif, devient un système désordonné de sites dans lesquels, sur chaque site, j'ai en gros soit un état vide, soit une paire de bosoniques de deux électrons, de deux particules de spin opposées. Donc c'est une onde de densité de charge, mais qui n'est pas ordonnée, qui est une onde de densité de charge désordonnée, si vous voulez. En gros, la physique du spin devient la physique de la charge. C'est ça qui se passe. L'antiferromagnétique dans la direction Z, donc si vous polarisez le système a une symétrie SU2 de spin complète, d'accord ? Donc je peux poser la symétrie magnétique dans la direction que je veux. Si je la brise dans la direction Z, eh bien ça correspond à une onde de densité de charge où j'ai une alternance parfaite, donc comme ici, entre des sites sur le sous-réseau A avec une paire et des sites sur le sous-réseau B avec un trou. Et puis si je brise la symétrie SU2 de spin dans la direction X ou la direction Y, eh bien ça correspond à la phase supraconductrice du modèle U négatif. Et donc vous voyez que, en fait, dans ce système demi-rempli à U négatif, il y a une dégénérescence parfaite entre un superfluide et une onde de densité de charge. C'est le même état, en fait. Ils sont indistinguables. La situation va évidemment changer si je me place hors du demi-remplissage, où là, ça correspond à introduire un champ magnétique dans le langage du modèle répulsif, et l'état superfluide et l'état onde de densité de charge ne vont plus être à la même énergie. Donc je voulais vous parler de cette symétrie parce qu'il permet de comprendre dans un autre langage les différents crossovers dont j'ai parlé tout à l'heure. L'isolant de mode du cas répulsif correspond à cet état de paire préformé. L'antiferromagnétique dans la limite de couplage fort correspond à la condensation d'un gaz de Bose, et l'antiferromagnétique dans le régime de couplage faible correspond à une onde de densité de spin de type Slater, dont on parlera un petit peu plus tard. Bon, alors, je reviens donc aux fermions dans les réseaux optiques et je veux vous parler de deux expériences qui ont maintenant presque 20 ans, pas tout à fait, qui sont les deux expériences qui ont pour la première fois réalisé l'isolant de mode fermionique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'isolant de mode fermionique? Ça ne veut pas dire atteindre ces états ordonnés, ça veut dire explorer ce crossover ici. On verra exactement dans quel régime de température ces expériences se trouvaient à l'époque, entre un régime liquide avec beaucoup de double occupation et de trous à bas couplage, et un régime incompressible à fort couplage. Alors, il y a en gros deux articles, à peu près simultanés, qui ont réalisé cette physique, dans l'équipe de Tillman et Slinger à l'ETH, donc c'est un papier Nature de 2008, et puis dans l'équipe d'Emmanuel Bloch, qui à l'époque, je pense, était encore à Mayence, évidemment dans l'autre journal, dans Science, en 2008 aussi. Alors, je vous donne juste une petite précaution, c'est que dans la suite, dans les quelques slides qui vont suivre, le hopping T va s'appeler J. Alors, c'est pas pour. C'est un peu pour vous confusionner, être sûr que vous êtes réveillé. Mais c'est aussi parce qu'à l'époque, cette communauté avait choisi d'appeler le saut entre plus proches voisins dans le modèle de Hubbard, avait choisi d'appeler ça J. Alors, pourquoi ils avaient choisi d'appeler ça J? Parce que T, petit t, était réservé pour le temps. Quand on fait une évolution dynamique du système, par exemple, vous faites une rampe, des paramètres du réseau, il fallait un paramètre pour désigner le temps et on utilisait T. Donc, c'était pas très agréable d'utiliser aussi T pour le hopping. Alors, ça, c'est très embêtant pour les physiciens de la matière condensée parce que nous, on réserve la lettre J au couplage antiferromagnétique, le super-échange antiferromagnétique, dont on parlera vers la fin de ce cours, au début du suivant. Et donc, c'est très embêtant. Depuis, cette communauté s'est mise à appeler le hopping T, comme en gros tout le monde, mais je n'ai pas eu le courage de refaire tous mes slides. Donc je garde J aussi, parce que dans les articles originaux, il y a J. Donc pour que vous compreniez les graphes expérimentaux, je garde J. Vous voyez ici J. J ici, hein, c'est le hopping entre sites, c'est petit t. Alors, donc voilà une courbe qui est issu de l'article de l'équipe d'Emmanuel Bloch de 2008. Et qu'est-ce que représente cette courbe? Alors ici, ce qu'on voit, c'est une mesure, en gros, de la taille de l'échantillon en fonction d'une énergie caractéristique qui s'appelle l'énergie de compression ici, qui est normalisée ici par la largeur de bande du réseau cubique. Donc, il s'agit d'un réseau à trois dimensions. On a déjà dit que 12T ou 12J, c'était la largeur de bande. Donc vous voyez qu'ici, c'est normalisé par la largeur de bande. Et la compression, c'est quelque chose qui peut être obtenu en variant la courbure du potentiel de piégeage. Donc j'ai encore pas beaucoup parlé, mais qui va maintenant intervenir de manière très sérieuse dans ces expériences. Et on va regarder la taille du réseau en fonction de la compression. Donc c'est quelque chose qui va être qualitativement relié assez directement à la compressibilité globale du système. Et ce que vous voyez ici, c'est que quand j'augmente l'interaction, enfin quand l'expérimentateur augmente l'interaction, donc ici on arrive à une interaction qui est de l'ordre de 1,5 fois la largeur de bande, c'est les points rouges, et bien vous voyez une sorte de plateau qui se développe. Et ce plateau me dit que, en gros, la taille de mon échantillon ne dépend que faiblement du degré de compression du système. Donc, le système atteint effectivement un régime où on peut penser qu'il y a une certaine incompressibilité qui se développe. Alors, vous voyez que c'est quand même un signal qui n'est pas absolument évident à interpréter. C'est le moins qu'on puisse dire. Et au moins à ce moment-là, la comparaison à la théorie joue un rôle essentiel pour interpréter ces résultats. En fait, ce que vous voyez sur ce graphe, c'est les points qui sont des points expérimentaux et les courbes en trait plein sont des calculs théoriques que je vais expliquer un petit peu maintenant. qui était fait dans une certaine approximation, en l'occurrence l'approximation du champ moyen dynamique, mais qui est très bonne à ces températures-là, qui effectivement calcule cette quantité en fonction de la compression et permet par ailleurs de s'assurer qu'on est bien dans le régime de Mott incompressible ici. Sans l'accord entre la théorie et l'expérience, ça serait peut-être un peu difficile de tirer des conclusions absolument définitives dès ces premières expériences. Mais enfin, c'est les premières expériences. Il faut quand même réaliser ça. Alors, comment ça marche cette histoire de compression? Et là, il y a un nouvel acteur de cette pièce de théâtre que je n'ai pas encore introduite, qui est le potentiel de piégeage. Alors, le potentiel de piégeage, c'est quelque chose qui est à la fois a curse or a blessing, selon la manière dont on le regarde. C'est la chose suivante. Vos lasers ont une certaine, comment est-ce qu'on dit ça en français, un certain waste, une enveloppe de leur distribution. Et on va se placer dans l'approximation simple où cette enveloppe est harmonique. Donc ça veut dire que, en fait, le système, il n'est pas dans un potentiel homogène, au moins dans ces expériences-là. On va voir comment, dans des expériences plus récentes, on peut réaliser des pièges plats. Mais à l'époque, les pièges étaient essentiellement des pièges harmoniques. Ce qui veut dire qu'il y a un potentiel général de confinement du système qui peut être décrit essentiellement par un potentiel parabolique. Si j'ai normalisé la distance par la maille du réseau, avec une certaine échelle d'énergie, Vt, on pourrait aussi écrire ça 1,5 de m oméga carré R2, où oméga serait la fréquence caractéristique du piège. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez considérer en gros que le potentiel chimique du système, donc qui permet de régler la densité localement, dépend du point. Selon mu de R égale un potentiel chimique au centre de l'échantillon moins cette échelle d'énergie R sur A au carré. Autrement dit, le profil de densité dans mon système ne va pas être homogène. Il va dépendre du point, donc c'est cette densité n de r ici. Et je vais vous montrer comment le fait d'avoir ce potentiel de confinement parabolique permet de réaliser un profil de densité qui va changer de manière forte quand on augmente la force des interactions jusqu'à obtenir une certaine structure dans laquelle au centre de l'échantillon, on a une densité essentiellement homogène, et on va voir pourquoi. Donc pour faire ça, on peut se placer dans une approximation qui est commode, qui est souvent justifiée, peut-être pas toujours, mais que je vais utiliser dans la suite de ces quelques transparents, qui est l'approximation de la densité locale. Donc qui consiste à dire que si le système s'équilibre localement suffisamment bien, eh bien je vais pouvoir considérer que la densité de mes particules au point R, c'est la densité du système homogène, c'est-à-dire du système que j'aurai sans l'absence du potentiel de confinement pour un potentiel chimique mu, prise au potentiel chimique mu de R au point considéré. Donc ça, c'est l'approximation de la densité locale dans laquelle je vais me placer dans les quelques calculs qui suivent. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux réexprimer le nombre total de particules d'une manière commode. Donc, qu'est-ce que c'est le nombre total de particules? Le nombre total de particules, c'est la somme sur tous les sites du réseau de la densité de particules au point J. Cette densité de particules au point J, c'est NJ up plus NJ down. Donc, je peux aussi l'écrire comme une intégrale spatiale, 4pi, j'ai supposé mon piège circulaire, asymétrie circulaire, ce n'est pas forcément le cas, de dr, r2, n2r. Je suis à trois dimensions hein, dans ce cas-là. Et donc vous voyez qu'en utilisant ça dans cette expression, je peux réexprimer les choses en termes d'une densité normalisée qui va être le nombre de particules fois cette énergie caractéristique qui apparaît, qui est le rapport entre l'amplitude Vt du potentiel homogène, du potentiel harmonique, divisé, ici je l'ai normalisé par la demi-largeur de bande. Pourquoi? Parce que il y a pas mal d'articles théoriques qui utilisaient ça comme notation. Et donc, juste en faisant un peu en transformant cette intégrale, vous voyez que la densité caractéristique qui apparaît, c'est n fois ce nombre sans dimension à la puissance 3,5. Donc cette densité est un nombre sans dimension, hein, qui est proportionnel au nombre de particules fois cette énergie caractéristique. Et je peux traduire l'axe ici, cette énergie de piégeage, de compression ET, directement en termes de rho. Donc en fait, dans cet article, ET sur 12J, c'était essentiellement VT sur 6J fois n puissance 2 tiers, avec une certaine constante de proportionnalité qui, si j'ai bien refait les calculs il y a quelques jours, est de l'ordre de 20 à peu près. Mais je ne vous garantis pas complètement ce nombre. Donc, autrement dit, pour dire les choses de manière simple, quand vous variez dans cette expérience ET sur 12J, ce que vous variez, c'est cette densité rho. Hein, et plus ET sur 12J est grand, plus rho est grand. Plus vous avez une densité normalisée qui est grande. Et cette densité normalisée, vous pouvez l'exprimer non plus comme une intégrale spatiale, mais juste par changement de variable, comme une intégrale sur le potentiel chimique mu. Donc c'est une intégrale qui fait intervenir l'équation d'état n de mu du gaz homogène, ça c'est parce que j'ai utilisé l'approximation LDA, intégrée en l'occurrence avec racine de mu0 moins mu, ça c'est parce qu'on est à trois dimensions, à deux dimensions ça serait un peu différent. Autrement dit, vous pouvez obtenir cette courbe de compression rho en fonction du potentiel chimique au centre, connaissant l'équation d'état n de mu et de t du gaz homogène. Et ici, les variables mu bar et t bar sont toutes normalisées. Alors, j'aurais dû écrire ça quelque part. C'est pas bien, ça devrait être écrit quelque part. Oui, sont toutes normalisées par 6J, la demi-largeur de bande. Donc mu bar, c'est mu sur 6J, t bar, c'est t sur 6J, ou si vous voulez, bêta étant 1 sur kt, bêta fois 1 sur bêta fois 6J. De la même manière, on peut regarder l'entropie par particule dans le système et l'exprimer en termes d'une intégrale sur le potentiel chimique de la densité d'entropie du système homogène, divisé par le nombre de particules. Et si on avait une évolution adiabatique du système, quand on branche le réseau, eh bien on devrait conserver cette quantité. Donc, en supposant une évolution adiabatique, la température initiale normalisée par l'énergie de Fermi me donne l'entropie du système en l'absence du réseau. Pour un système à trois dimensions, c'est pi carré fois la température sur TF. Et en principe, cette équation, en supposant la diabaticité, vous permet de prédire la température ou l'entropie, plus exactement, que vous avez atteint une fois le réseau branché. Donc, en principe, sur ce transparent, en utilisant la diabaticité et en utilisant l'approximation LDA, il me suffit, entre guillemets, de connaître l'équation d'état du système homogène pour faire une prédiction sur ce système, et c'est précisément de cette manière que ces courbes ont été obtenues. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur cette équation d'état? Donc maintenant, je vais vous parler de l'équation d'état dans un régime de relativement haute température, parce que, comme vous allez le voir, c'était le cas de ces expériences, pour le modèle de Hubbard tridimensionnel et le système homogène. Donc ici, vous avez des calculs, qui sont des calculs qui ont été effectués dans notre équipe il y a déjà pas mal de temps, dans ce régime de relativement haute température, où on a utilisé l'approximation de champ moyen dynamique, qui était, dans ce régime de haute température, une très bonne approximation. Et vous voyez ici la densité moyenne de particules par site, donc qui varie entre 0 et 2, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, en fonction du potentiel chimique normalisé par la demi-largeur de bande. Donc vous voyez que quand l'interaction est faible, donc ici U sur 6J égale 0,5, eh bien cette densité varie de cette manière, de manière lisse. Et puis quand l'interaction augmente, on voit apparaître un plateau dans cette courbe, donc très visible pour le cas de plus fort couplage ici, il y a un plateau dans lequel vous variez le potentiel chimique et la densité reste coincée à une particule par site. Donc ça veut dire que vous avez atteint un régime incompressible, dN des mu, c'est la compressibilité du système homogène, dans lequel la compressibilité du système est essentiellement nulle. Alors, ces calculs ne sont pas exactement faits à température zéro, où de toute façon cette approximation ne serait plus vraiment très bonne, elles sont faites pour cette courbe-là, une température qui est quand même assez faible, qui est de l'ordre de, disons, peut-être, c'est quoi, bêta de l'ordre de 2, donc ça veut dire une température de 0,5 fois le Hopping, qui était plus basse que les températures atteintes à l'époque dans ces expériences, comme on va le voir tout à l'heure. Et donc, déjà à cette température, on voit très clairement l'apparition du plateau de Mott, hein, d'un régime incompressible. Mais on n'est pas encore dans le régime où on aurait de l'ordre antiferromagnétique dans le système. Alors, à plus haute température, ça c'est bêta fois 6J égale 1, donc 10 fois plus chaud que ça. Vous voyez que ce plateau de Mott, eh bien, il commence à fondre. Hein, mais néanmoins, il y a un régime où la compressibilité est plus faible autour du demi-remplissage. Donc voilà l'équation d'état du système homogène. Et de la même manière, on peut calculer l'entropie du système homogène. Donc toujours issu du même article, on a ici l'entropie par site du système homogène en fonction du potentiel chimique. Et vous voyez qu'à haute température, donc bêta c'est 1 sur kT, hein, à haute température, donc bêta petit ici, on a une courbe qui est atteinte, par exemple, le demi-remplissage est là. Donc vous voyez qu'ici on a une entropie par site qui est grande, qui est plus grande que log 2 par site. Donc log 2 par site, c'est si vous avez bloqué toutes les fluctuations de densité et il ne vous reste plus que le moment local. D'accord ? Ici, clairement, log 2, ça vaut 0,69. Hein, pour, vous voyez qu'ici, on est clairement au-dessus de log 2, qui est indiqué par la ligne rouge. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de fluctuations de densité dans le système. Donc on est dans le régime au-dessus du crossover de Mott. Et puis quand je baisse la température, eh bien, l'entropie par site atteint log 2, qui est, donc correspond au fait qu'on a complètement bloqué les fluctuations de densité. Et bien sûr, si vous baissez la température encore plus, eh bien, vous commencez à manger l'entropie qui correspond aux fluctuations des moments locaux, hein, par formation d'ordre magnétique, enfin de corrélation magnétique dont la portée va s'étendre. Et puis à un moment, vous allez ordonner le système magnétiquement. Donc ici, à plus basse température, on devrait voir l'entropie qui continue à décroître. Donc ce régime n'est pas représenté sur cette courbe. Et puis si vous... Donc ça, c'est le régime disons de Mott, incompressible, où on n'a pas encore vu les corrélations magnétiques, mais on a bloqué les fluctuations de densité. Si vous maintenant vous introduisez des particules ou des lacunes dans cet isolant de Mott, ben vous allez réautoriser les fluctuations de densité et donc vous allez avoir une sorte de pic d'entropie ici, vous allez réintroduire de l'entropie dans le système et donc vous voyez que l'entropie en fonction du potentiel chimique dans le système, il a cette forme de colline là avec un puits au milieu autour de log 2 et puis des ailes où l'entropie remonte parce que vous avez introduit de l'entropie par fluctuation de densité. Donc voilà l'entropie du système homogène. Donc maintenant, on a tous les ingrédients qu'il nous faut. On a l'équation d'état N versus mu du système homogène, l'entropie du système homogène, et en principe, si on se place dans l'approximation LDA, on peut prédire la forme du profil de densité pour une certaine température, une certaine interaction. On peut prédire la courbe rho versus taille du système versus rho, etc. Alors, le fait qu'il y ait ce potentiel de piégeage harmonique dans le régime incompressible va introduire une forme assez marrante du potentiel du profil de densité, qui est un profil en gâteau de mariée. Donc je vais l'illustrer sur un cas extrêmement simple pour que vous compreniez comment ça marche. Supposons qu'on se place dans la limite où il n'y a pas de saut entre sites. Donc le cas petit t ou petit j égale ou grand j égale 0. D'accord ? Donc à ce moment-là, j'ai une collection de sites découplés, je peux résoudre le problème très facilement, puisque j'ai juste un site avec quatre états possibles. Un petit peu de mécastase très simple vous dit que l'équation d'état, n de mu et de t, dans cette limite simple, eh bien c'est un rapport de Poiseuille-Boltzmann. Donc vous voyez ici que ça c'est la fonction de partition de ce système à quatre niveaux. Hein. Et puis ici vous avez la probabilité d'occupation du système du site simplement occupé, et ici la probabilité d'occupation du site doublement occupé. Vous faites la somme de ces probabilités d'occupation et vous trouvez n de mu et de t. Donc n de mu et de t, dans cette limite qu'on appelle quelquefois en physique de la matière condensée la limite atomique, ou la limite sans saut, disons, dans ce contexte, eh bien, c'est quelque chose qui va varier de manière lisse en fonction du potentiel chimique dans un régime de haute température. Donc ici, ça, c'est la courbe pour bêta égale 0,5. Et puis, dans le régime de basse température, on va former ces plateaux de densité. On appelle quelquefois, en matière condensée, ce profil l'escalier de Coulomb, puisqu'on a bloqué la charge. Là, j'utilise un langage matière condensée. On a bloqué la charge par l'interaction répulsive, donc par l'énergie de Coulomb de charge de mon système. Et cet escalier de Coulomb, au passage, joue un rôle très important dans les phénomènes de blocage de Coulomb dans les points quantiques. Donc voilà, donc, ça c'est le régime incompressible n égale 1 qu'on commence à former. Et maintenant, si vous mettez tout simplement cette équation d'état dans l'approximation LDA pour la densité au point R avec un potentiel de piégeage de confinement parabolique, eh bien, vous obtenez les profils de densité qui sont ici. Quand on augmente le potentiel chimique au centre de mon piège, ce qui veut dire quand on augmente la densité de particules. Alors vous voyez ici ce qui se passe, c'est que si mu0 est petit, ben, vous avez un système qui ne va jamais atteindre une particule par site, même au centre du piège, qui est un profil homogène. Et puis quand vous commencez à atteindre un régime où il y a un plateau incompressible au centre, eh bien vous formez ce profil de densité où au centre du piège, la densité est bloquée à 1. C'est ça qui crée un disque, ou plutôt une sphère à trois dimensions, où la densité, il va y avoir un ensemble macroscopique de sites où la densité est bloquée à 1. Donc vous voyez que ça, c'est pour ça que je disais que le potentiel de confinement, c'est à la fois une bénédiction et un embêtement. Dans ce cas-là, il permet de réaliser au centre du piège un système quasi homogène, et il permet aussi, en principe, de réaliser dans un même échantillon tout un profil de densité. Donc a priori, on va avoir une physique qui va être différente au centre du piège et une physique différente ici, dans les ailes. Par exemple, si on était à basse température, on pourrait très bien imaginer qu'on ait un centre du piège qui soit un isolant de Mott, incompressible, peut-être antiferromagnétique, et le système ici, au voisinage de ça, qui serait un superfluide, dans le même échantillon. Et puis, quand je continue à augmenter la densité, je suis bien obligé de mettre mes particules quelque part. Donc, on va créer obligatoirement une région au centre du piège où la densité va être plus qu'une particule par site, jusqu'à atteindre un nouveau palier incompressible qui est l'isolant de bande, avec deux particules par site. On verra que cet isolant de bande joue un rôle important dans les nouvelles méthodes de refroidissement dans ces systèmes. Et puis ici, vous aurez repoussé l'isolant de Mott sur une couronne. Et donc vous allez avoir vraiment un profil en gâteau de mariée avec un centre incompressible, deux particules par site, et un disque ou une sphère incompressible avec isolant de Mott, une particule par site. Alors dans l'article qui est toujours cet article de notre équipe que je mentionnais avant, on a réalisé pour un piège harmonique un diagramme de phase, représenté un diagramme de phase qui délimite les différents régimes de profil de densité. Donc vous voyez qu'il y a en gros quatre types de profils de densité que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir un profil de densité où la chose est parfaitement lisse, on a un liquide partout. Vous pouvez avoir un profil de densité où on a réalisé un isolant de Mott au centre du piège avec une densité bloquée à 1, donc ça c'est ce cas-là. On peut, si la densité est plus grande, avoir une couronne de Mott, donc c'est ce qu'on a appelé ici Mott Shell, avec ici une densité plus grande que 1 au centre du piège, et puis ici, un profil de densité où on a atteint deux particules par site au centre du piège, donc l'isolant de bande. Et donc ce qu'on a représenté ici, connaissant, ayant calculé la densité, l'équation d'état du système homogène, et en utilisant l'approximation LDA, on a représenté dans le plan force de l'interaction versus densité caractéristique, donc cette densité rho qu'on a introduite tout à l'heure, les lignes qui délimitent les différentes formes de profils de densité. Donc ici, quand je me place à une certaine interaction, j'ai d'abord un système qui est en gros liquide, ensuite j'ai un intervalle de densité dans lequel j'ai bien une particule par site au centre du piège. Après, quand je commence à vouloir augmenter la densité, je suis obligé de dépasser une particule par site au centre du piège, donc je vais créer mon isolant de Mott, mais dans une couronne à l'extérieur du centre. Et puis ici, je vais finalement, à très haute densité, être obligé de mettre deux particules par site au centre, en augmentant la densité. Et une première chose que vous pouvez faire, c'est de regarder si ce diagramme de phase est compatible avec les expériences que je viens de vous montrer. Donc pour ça, il vous faut convertir ρ dans l'énergie de compression ET sur 12J de cette expérience et vérifier que le palier où ces auteurs disaient qu'ils avaient l'incompressibilité est bien compatible avec ce régime ici. Alors c'est ce que j'ai fait dans ce transparent-là, et ça ne marche pas trop mal. Donc vous voyez ici que pour cette énergie U sur 6J qu'ils avaient dans l'expérience, ces courbes ici, cet intervalle me donnerait cette barre orange. Et si je reporte, si j'ai bien fait la conversion entre ρ et ET sur 12J, si je reporte ça dans leur graphe expérimental, eh bien en gros, cette barre orange, elle se retrouve là. Donc vous voyez que c'est raisonnable, au moins semi-quantitativement, qu'effectivement, ce palier d'incompressibilité correspondait au régime où vous avez créé une région homogène au centre ou quasi homogène au centre avec une particule par site et un régime incompressible. Alors, évidemment, les auteurs de ce papier ont fait des calculs du même type, mais plus détaillés, pour ce système. Et encore une fois, ces courbes en trait plein sont exactement les calculs qui sont représentés ici, en utilisant aussi l'approximation du champ moyen dynamique à l'époque pour obtenir ces densités d'état, ces équations d'état. Voilà. Alors, dans l'article du groupe de Esslinger, le diagnostic qui a été fait pour l'isolant de Mott, je n'ai pas montré les courbes, mais c'était plutôt la double occupation en fonction de la densité. Donc, quand vous êtes en couplage faible, la double occupation va augmenter en fonction de la densité. Quand vous êtes en couplage fort, il va y avoir, quand vous atteignez le régime incompressible, un régime dans lequel la double occupation reste très faible pour un grand range de densité. Et c'était ça leur diagnostic. Ça, c'est des calculs théoriques qui vous montrent le profil de densité pour différents points sur ce graphe. Et pour finir ce cours, j'ai avancé beaucoup, beaucoup moins vite que ce que je pensais. Pour finir ce cours, je vais vous parler un petit peu d'estimation de la température dans les expériences de cette époque, donc il y a une quinzaine d'années. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous connaissez l'équation d'état et l'entropie, qui peut aussi être déduite de l'équation d'état, on verra ça sans doute la prochaine fois, du système homogène, donc si vous connaissez ça, si vous connaissez ça et ça, vous pouvez faire des prédictions sur l'état thermodynamique du système. Alors ça, c'est un article du groupe de Tillmann et Esslinger, notre équipe avait participé, dans lesquels, en mesurant la double occupation du système, on remontait, grâce à cet input théorique, à l'entropie dans le système. Donc, ce qui est mesuré, c'est la double occupation. Je ne suis pas sûr que je vais avoir le temps de vous dire comment. En gros, la manière dont la double occupation était mesurée à l'époque, ça consistait, si mes souvenirs sont bons, à brutalement approfondir le réseau, à utiliser une résonance de Feshbach pour pousser les états doublement occupés dans un certain état d'énergie, les basculer et faire une mesure d'absorption pour mesurer la double occupation. Et donc, en fitant ces courbes de double occupation en fonction de ρ, disons, en supposant qu'on connaît le potentiel de piégeage qui était indépendamment aussi testé expérimentalement, donc en fitant ces courbes D versus ρ avec des calculs de cette même quantité pour différentes entropies, on pouvait en déduire l'entropie du système. Donc vous voyez ça, c'est les points expérimentaux, les trucs avec les barres d'erreur, les points noirs. Et puis vous avez ici des ajustements par nos calculs théoriques de ces courbes. Et le best fit est obtenu ici et permettait de déduire que pour ces... Alors là, c'est devenu T, vous voyez l'amplitude de saut. En allant du couplage le plus faible vers le couplage le plus fort, on voyait qu'on atteignait des entropies qui étaient de l'ordre de, disons, 1,5, quelque chose comme ça, par référence au système 1,5 par particule. Alors vous voyez que cette entropie, elle est quand même bien loin du log 2, hein, qu'il nous faut pour vraiment atteindre les régimes pertinents pour le magnétisme. Vous voyez aussi ici comment les courbes de double occupation en fonction de la densité changent quand on passe du régime liquide, en particulier la courbe Urshange, quand on passe du régime liquide au régime incompressible, hein, où ici on a un plateau de double occupation en fonction de rho. Alors ici, oui, donc je voudrais aussi préciser que tous ces calculs à l'époque, dans cet article-là, les calculs avaient été faits à la fois avec l'approximation de champ moyen dynamique, mais de manière encore plus simple, avec une simple série aux températures au deuxième ordre. Donc ça vous montre que les températures qui étaient atteintes à l'époque dans ces systèmes étaient quand même assez élevées pour que un simple calcul de l'équation d'état par série aux températures au deuxième ordre, c'est-à-dire en bêta t au carré, suffise à ajuster les expériences. Donc autrement dit, en termes de température, on peut estimer que, grâce à ces mesures d'entropie, enfin ces mesures permettant d'en déduire l'entropie, on peut estimer que, en gros, le régime de température dans ces systèmes tridimensionnels qui étaient atteints dans les années 2008-2010 se situait à T sur J de l'ordre de, vous voyez, 1,2, quelque chose comme ça, 1,2-1,5. Donc, en gros, T... au mieux de l'ordre du Hopping lui-même. T sur J de l'ordre de 1, disons. Donc ça, c'est encore bien au-dessus de la température qu'il nous faut atteindre pour réaliser l'isolant de mode antiferromagnétique avec de l'ordre à longue portée, qui, dans le cas tridimensionnel, se situe à T sur petit t ou T sur J de l'ordre de 0,35, quelque chose comme ça. Hein, donc il y a un facteur 3 à gagner sur la température pour réaliser l'état antiferromagnétique à trois dimensions. Et donc, ce qu'on va voir la prochaine fois, c'est que cet état antiferromagnétique a d'abord été réalisé dans les expériences en 2017 à deux dimensions, et puis très récemment à trois dimensions aussi, j'en parlerai peut-être un petit peu. Je crois que je vais m'arrêter. Est-ce que je m'arrête maintenant ou est-ce qu'on prend quelques minutes de plus? Je voulais vous parler de... Bon, on va peut-être garder ça pour la prochaine fois. Je voulais vous parler, toujours dans un régime de relativement haute température, mais des expériences un peu plus récentes, du groupe de Michael Köhl, qui était en transition entre Cambridge et Bonn, dans lesquelles une mesure directe de l'équation d'état avait été faite à l'époque. Je vais peut-être garder ça pour la prochaine fois, c'est plus raisonnable. Voilà, je vais m'arrêter là.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.